Dominique Chauffat.
C'est un beau doublé suisse qui s'est joué aujourd'hui sur la difficile descente de Bormio en Italie. Le fribourgeois Alexis Monet tient son premier succès à 24 ans devant le bernois Franjo von Almen. Marco Dormat s'est fait peur, son airbag s'est ouvert. Il termine cinquième, juste devant Justin Murizier. Et bonne nouvelle pour le descendeur français Cyprien Sarrazin. Il a été opéré pour drainer un hématome intracrânien après sa chute d'hier. Il est réveillé et conscient. Son état est stable à l'heure actuelle. En hockey sur glace, la Coupe Spengler se poursuit et elle profite à Fribourg-Gotteron. Les Fribourgeois terminent premiers de leur groupe. Les voilà qualifiés pour les demi-finales après la victoire aujourd'hui des Finlandais de Kerpet-Oulu sur les Tchèques du Dynamo Pardubice. Gotteron disputera sa demi-finale lundi. La Crimée décrète l'état d'urgence. Les autorités russes jugent la situation critique à cause de la marée noire. Une marée noire provoquée par le naufrage de pétroliers entre la Russie et la Crimée annexée. Le Kremlin appelle les instances gouvernementales à des efforts maximaux pour faire face au déversement de milliers de tonnes de mazout, notamment sur les plages du sud-ouest de la Russie. Celui qu'on nomme le boucher de Hama en Syrie, Rifat al-Assad, a pris un avion depuis l'aéroport de Beyrouth, selon une source de la sécurité libanaise. Et il est poursuivi dans notre pays. L'ancien chef des forces d'élite est accusé par la justice suisse d'avoir ordonné des meurtres, des actes de torture, des traitements cruels et des détentions illégales. Il a fui la Syrie après la chute de son neveu, le président déchu Bachar al-Assad. Les premières mesures du plan d'action contre le crack à Genève ont permis de stabiliser la crise après une année. Le nombre de consommateurs est constant et les actes violents ont diminué. C'est ce qu'indique Thomas Herkel dans le quotidien Le Temps. Il dirige Première Ligne, l'association qui gère le local d'injection qui est neuf. Le plan d'action lancé par le canton doit durer 3 ans. Nous aurons un même chargeur dès aujourd'hui pour tous les appareils électroniques en Europe. Les nouvelles règles de l'Union européenne l'exigent pour tous les nouveaux smartphones, tablettes et appareils photo. Cette mesure est entrée en vigueur ce samedi. Elle est aussi suivie par notre pays. On les imaginait disparus à jamais. Plus de 1300 escargots des îles Desertas au Portugal ont été réintroduits dans leur habitat d'origine, annonce faite par le zoo de Chester au Royaume-Uni. Ils ont été élevés là-bas. Ces escargots de la taille d'un petit pois appartiennent à 2 espèces différentes en danger critique d'extinction. On prend encore des nouvelles du ciel. Attention au brouillard parfois givrant. Il est au menu demain au-dessous des 700 mètres. Il devrait se dissiper l'après-midi, tout comme les bancs de stratus. Partout ailleurs, c'est le soleil qui brillera, avec des thermomètres qui grimperont jusqu'à moins 1 à 4 degrés selon l'ensoleillement.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Tournons la page sur 2024 avec la joyeuse équipe des Dicodeurs. Avec humour et en chanson, la bande à Marie Riley vous fait revivre les petits et les grands événements de l'année. La revue des Dicodeurs, c'est le mardi 31 décembre dès 22h, en direct sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Sport Première. Patrick Delétro.
Et au programme de cette deuxième heure d'émission, la suite de notre rétro consacré aux Jeux Olympiques de Paris. Dès 21h, nous reviendrons sur l'Euro de football qui s'est disputé cet été en Allemagne, ainsi que sur tous les autres événements qui ont marqué la rubrique des sports cette année. Et parmi les groupes qui ont aussi marqué l'année 2024, il y a celui-ci, c'est Indochine avec son chant des cygnes. Sois fort, le chant des cygnes Indochine, qui n'a pas été invité à chanter durant les Jeux Olympiques de Paris. Du coup, le chanteur du groupe, Nicolas Sirkis, en a profité pour aller regarder plusieurs épreuves avec ses enfants et il a trouvé l'événement extraordinaire. Et c'est vrai, Stéphane Trisconi, qu'il y a eu de quoi s'enthousiasmer durant les 15 jours de compétition.
On a vu des exploits, des échecs, des sauts de joie, des chutes, des larmes, des sourires. On a tout vu, mais quelle est l'image que vous allez garder en tête de ces JO? C'est la question que j'ai posée à toute la rubrique des sports. Et on commence par découvrir la vôtre. Caroline Raymond, vous avez choisi une petite chorégraphie.
Une petite chorégraphie faite par les joueurs de l'équipe de France de rugby à 7 sur la pelouse du Stade de France quand ils ont gagné la médaille d'or. On parlait tout à l'heure de la fête quand étaient ces Jeux Olympiques. Pour moi, c'est le petit truc qui a lancé la fête. Il fallait qu'une médaille d'or tombe très vite pour la France, pour que vraiment les Français puissent se réjouir de ces Jeux Olympiques. Et ça vient par le rugby. Petite chorégraphie qu'on a retrouvée après... comment ça s'appelait? Le Club France. Hein,
c'est Club juste... France.
Le Club France, ouais. Exactement. Et ça a mis le feu, j'ai l'impression. Tout le monde s'est amusé à regarder ces rugbymen. Certains avaient le sens du rythme, d'autres un petit peu moins. Je me souviens d'Antoine Dupont qui l'avait peut-être un petit peu moins. Et c'est la belle histoire aussi d'Antoine Dupont qui a vécu des championnats du monde de rugby en France, cauchemardesque, qui se blesse, la France est éliminée dans des conditions... voilà, les Français s'en sont toujours parmi cette défaite contre l'Afrique du Sud. Il décide de passer au rugby à 7, c'était pas non plus une évidence pour lui. Est-ce que ça allait faire, hein? Ça allait le faire, cette greffe, ça l'a fait. Effectivement, la France bat les Fidji qui sont double tenants du titre. Je pense que c'est aussi une publicité extraordinaire pour le rugby. Je crois que Patrick a commenté du rugby à 7 aussi à Tokyo. Ça démontre aussi que quand ce sport est joué dans un pays comme la France, ben ça marche. Et puis c'est un sport qui a totalement sa place dans un programme olympique. Et puis j'ai appris un truc assez intéressant, c'est que cette danse, c'est l'aboutissement en fait d'un travail de 2 ans. Donc une fois par mois, les 2 années avant les Jeux Olympiques, il y a une chorégraphe et danseuse qui est venue au fait au sein de l'équipe de France et qui a appris à danser au fait aux joueurs. Le but, c'était de les mettre dans une situation d'inconfort, le but qu'ils se mettent en confiance, qu'ils acceptent leur corps et du coup qu'ils se mettent à travailler la gestion de l'espace, du tempo, enfin le corps à corps. Et finalement, c'est génial, quoi. Ils ont appris à danser et puis bah voilà, à la fin, bah ils gagnent et puis ils font leur petite choré qui restera, je pense aussi dans les souvenirs de beaucoup de Français.
Ouais, vous avez parlé du Club France. Vous étiez allé, vous qui étiez à Paris, Jérôme Jordan, qui revient de...
Non, mais c'était pas très sélect. Hein.
Ouais, mais je ne sais pas, hein, je ne connais pas votre influence.
J'y suis passé une fois pendant les Paralympiques, mais juste pour aller faire une interview. Donc déjà là, c'était en milieu d'après-midi, les gens commençaient à arriver. Et franchement, quand on a vu les images de ce Club France, je suis arrivé, je dis « Ah ouais, c'est ça, d'accord, ok, c'est une folie totale ».
Folie totale également pour les épreuves de cyclisme. C'est d'ailleurs une des images fortes que vous avez retenues, Patrick Deletro. C'est une crevaison même, celle de Remco Evenepoel.
Effectivement, bon, les épreuves de cyclisme, Montmartre, comme les plus grandes étapes du Tour de France, un public de fous, c'était extraordinaire, si bien que beaucoup disent maintenant que la dernière étape du Tour de France devrait reprendre ce parcours. Ça se fera peut-être pas, mais bon, voilà, c'était extraordinaire. Et puis il y a Remco Evenepoel qui est déjà champion olympique du contre-la-montre, qui attaque 2 fois dans cette course, qui part à 40 km de l'arrivée. Il y a Valentin Madouas qui réussit plus ou moins à le suivre. Et puis il est seul. Il est seul et il va gagner à moins de 4 km de l'arrivée. À ce moment-là, il lève le bras. Et ce moment-là m'a beaucoup énervé. Parce que en cyclisme, quand un coureur lève le bras, c'est qu'il a un problème, c'est qu'il appelle sa voiture. Et à ce moment-là, le réalisateur coupe pour nous montrer un monument. Alors, on nous a montré des tonnes de monuments. Et voilà, et moi, j'étais devant ma télé, je me disais, c'est pas possible, mais il faut nous montrer Remco, il se passe quelque chose. Et voilà. Et en fait, quelques secondes après, le réalisateur revient sur lui. On voit qu'il s'énerve, il a crevé. Il estime que la voiture, que le dépannage tarde un peu trop, alors que, il le dira après, c'est normal, avec l'adrénaline, il s'est énervé sur le moment.
Et parce qu'il n'y a pas d'oreillette.
Et voilà. D'où le geste encore plus important. Et puis finalement, il avait tellement d'avance qu'il gagne. Et puis, il y a cette image extraordinaire, cette photo. Parce qu'encore une fois, là, je critique encore la réalisation. Quand il est arrivé, on voyait plus la Tour Eiffel que lui. Par contre, les photos qui ont été prises après, où il passe la ligne, il descend de son vélo, il lève son vélo, il est à la Tour Eiffel, il y a lui en grand, et la Tour Eiffel en grand derrière lui aussi, celle-là est absolument extraordinaire. Là, c'était un moment magique pour tout amateur de cyclisme et pour tous ceux qui ont vu et qui ont vécu cette course aussi.
Vous en faites partie, Jérôme Jeanin, un de ces amateurs de cyclisme. C'est vrai que c'était assez phénoménal, cette image dont parle Patrick.
Oui, alors il a le sens de la mise en scène aussi. Hein. Van Poel, c'était absolument fabuleux. L'intérêt des courses sans oreillettes, évidemment, la panique d'Van Poel, c'est quelque chose d'inimaginable.
Il a une quinze d'avance,
il ne le sait pas.
Ça peut paraître énorme, mais bon.
Non, c'est peu et beaucoup à la fois. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'arrivée des suivants, parce qu'il y avait une course très débridée sur la fin. Et évidemment, comme on a vu l'arrivée d'Van Poel, on savait pas ce qui se passait derrière. Alors, on a vu que Madouas a quand même fini deuxième. Et puis, je crois que Christophe Laporte, il passe la ligne d'arrivée, il fait 3, mais il le sait pas.
Non, effectivement.
Il lève pas les bras. Et c'est la même chose, je crois, avec Christelle Faulkner, quand elle gagne la course féminine. Ouais. Elle sait pas qu'elle a gagné. C'est fou, quoi, quand même, à une époque moderne comme ça, qu'on ait des incertitudes comme ça sur la ligne d'arrivée.
Et d'ailleurs, cette image dont je parlais de Remco Evenepoel, il y a personne derrière lui. Il a cette minute d'avance, il a le temps de le faire, et on ne voit pas, il n'y a pas une voiture, il n'y a pas une moto, il n'y a pas un cycliste derrière lui. Pendant un moment, il était vraiment tout seul. On a l'impression qu'on avait arrêté la circulation pour qu'il puisse célébrer, quoi.
Alors lui, il a eu une médaille, même deux médailles, et il y en a qui les ont manquées. Ces médailles, et c'est un peu ce que vous avez retenu dans votre image forte des JO, Jérôme Jeannin, il y a une image et un son.
Une image et un son, effectivement, aussi pour rendre hommage à ces perdants magnifiques que sont tous ces athlètes qui ont échoué à la quatrième place. C'est pas facile pour les Suisses, ça a été encore beaucoup plus difficile pour les Français. Alors l'image, c'est celle de Daniel Aich, ce judoka que je ne connaissais pas personnellement. On avait quelques espoirs de médailles en judo avec Nils Stumpf, ça n'a pas marché. Et puis on a eu Daniel Aich, ce colosse qui a franchi les tours l'un après l'autre, et puis qui est arrivé jusqu'en demi-finale, qu'il a perdu. Qui a joué la petite finale. Et il y a eu une sorte de flou artistique, vous vous en souvenez peut-être, au niveau de l'arbitrage. Il y a eu une pénalité trop qui a été donnée à son adversaire. Et Daniel Aich qui était déclaré vainqueur avant d'être déclaré perdant quelques secondes plus tard. Donc déjà ça, faut imaginer au niveau humain, dramatique, émotionnel, ce que ça représente, de passer à la joie, à la tristesse en quelques secondes. Et là, n'importe qui se serait énervé, effondré et tout. Et lui, il a encaissé, il a respiré, il a avalé ça avec une dignité absolument remarquable, rendant hommage, présentant son adversaire à la foule. En plus, c'était un Israélien, donc ça aurait, vu le contexte, ça aurait pu être quelque chose, dans un autre sport peut-être, qui aurait pu dégénérer. Donc, chapeau à la dignité de cet athlète, et puis chapeau aussi aux valeurs de ce sport qu'est le judo, où le respect est encore une valeur centrale.
Ça, c'est l'image. Et puis, il y a le son.
Ouais, le son, malheureusement, c'est les sanglots de Maud Jaillet dans cette interview dramatique réalisée par Anna Silva à Marseille. Maud Jaillet qui était en course pour la troisième place et puis qui a l'impression de jamais avoir pu jouer la médaille parce qu'il y avait des conditions de vent qui étaient absolument précaires dans cette baie de Marseille. Il y a eu très peu de vent. Après, des vents changeants. Il y a une régate au cours de laquelle elle était en tête qui a été interrompu. Et puis, à l'arrivée, Maud Jaillet est effondrée et c'était quelque chose de dramatique à entendre, d'extrêmement poignant. Et chapeau à elle d'avoir assumé tout ça avec beaucoup de professionnalisme et avec une émotion folle, sans doute.
C'est là qu'on voit à quel point une quatrième place, c'est cruel. Moi, j'ai trouvé, c'est vrai qu'en Suisse, il y a eu beaucoup de quatrième place, mais certaines, les athlètes étaient presque contents parce que aller viser une médaille, c'était presque trop. Et puis là, on voit, cette déception et ces athlètes qui n'acceptent pas justement aussi cette quatrième place et qui se contentent pas justement des places d'honneur ou d'un diplôme. Et c'est vrai que c'est un son qui est vraiment très, très marquant.
Il faut pas oublier que pour certains, c'est 4 ans de travail, souvent dans l'ombre. Et puis, le jour J, vous terminez quatrième. Il n'y a pas pire, Patrick Deletron.
Non, il n'y a pas pire. Souvent, les Jeux Olympiques, c'est le rêve ultime. C'est uniquement par là qu'on peut briller ou qu'on peut vivre, hein, tout simplement de son sport, hein, pour certains sports. Donc, forcément, arriver quatrième, quand parfois c'est à un centième, c'est une question de centimètres, de millimètres, ou
de
centième,
ouais,
de
ça,
vent.
Ça rappelle aussi que ce sont les sports d'extérieur. Hein. Le saut à ski, suivant le moment pendant lequel vous partez, vous n'avez pas les mêmes conditions qu'un autre. La voile, c'est la même chose. Enfin, les sports d'extérieur, ça reste, il y a quand même une part d'incontrôlable, hein, qui reste très forte.
Et à Paris, si on compte la quatrième place de Dominique Lobalou qui a dû participer au JO en tant que réfugié, les Suisses ont terminé à 10 reprises au pied du podium. C'est un record historique.
Et on pourrait dire qu'ils sont passés à ça du jackpot. Hein. C'est ce que dirait d'ailleurs Bastien Becker. You feel stuck, you feel down, take the wheel, don't slow down, till you know you've found what you want, who you are, where you want to be at. Your life. I'd like a grand tour of what's out there. I'd
I'd like to live like I don't care for once. Take a right or take a left, you'll end up in the perfect place. There ain't no wrong way when you got time. Whoa, the streets are mine. Drive alone or take some friends. See the road never ends when your eyes start tearing up. Whoa, you in the dark part. You in the dark part. Look up and look down. In fact, look all around. Feel the heat, hear the sound of the church bells of that little town as the sun goes down on a million grapevines. I like the shadows from the trees. I like the colors in the breeze. Oh no, take a right or take a left, you'll end up in the perfect place. There ain't no wrong way when you got time. Whoa, oh, the streets are mine. Drive alone or take some friends. See the roads never ends when your eyes start tearing up. Whoa, oh, you in the dark. A grand tour of what's out there. I'd like to live like I don't care. Take a right or take a left, end up in the perfect place. Ain't no wrong way when you got time. Whoa, the streets are mine. Drive alone or take some friends. See the roads never ends when your eyes start tearing up.
Jackpot, Bastian Becker, qui a chanté une fois lors des Jeux Olympiques, c'était dans le Parc Olympique à Sochi en 2014. Mais nous, on continue, Stéphane Trisconi, à découvrir les images marquantes des Jeux de cet été à Paris.
Après la chorégraphie de l'équipe de France de rugby à 7, la crevaison de Remco Evenepoel, le fair play du judoka suisse Daniel Aich et les larmes de la vaudoise Mojaye, on va découvrir votre image, Alain Thévaux. Vous avez choisi l'eau de la Seine et la médaille de Julie Deron en triathlon.
Exactement. Peut-être on commence par la qualité de l'eau. Donc, un réveil à 5h, même un petit peu avant, vers les 4h30, un push avec le report du triathlon à cause de l'eau de la Seine. Et je vois encore, donc je me laisse un peu emporter par l'émotion parce que, à un moment donné, j'apporte un commentaire dans un direct en disant, ben, en tout cas, moi, personnellement, je me baignerai pas dans la Seine. Alors, il y avait eu effectivement toute aussi, c'est le cas de le dire, une mise en scène, mais avec les politiciens qui se baignaient, qui voulaient montrer au monde entier qu'on pouvait se baigner dans la Seine. Enfin bref, il y a eu des reports, des annulations d'entraînement, report de l'épreuve de triathlon. Le matin, il pleut vraiment fort et ensuite, il fait grand beau et surtout, on n'attendait pas Julie Deron, la zurichoise, parce que elle est meilleure normalement sur des distances plus courtes, sprint, et puis elle est présente, elle sort de l'eau. Elles sont plus ou moins 9 athlètes. Ensuite, dans l'épreuve de cyclisme, elle est régulièrement aux avant-postes. C'est elle qui emmène les échappées. Et puis, à la fin, l'épreuve de course à pied, bon, mais elle termine deuxième à 6 secondes de la Française. Elle était même déçue parce que finalement, elle n'a pas osé attaquer. Je veux dire, elle était toujours sur la défensive. Elle-même était surprise par cette deuxième place, par sa position. Et puis, lorsque Cassandre Beaugrand, la Française, a attaqué, voilà, elle s'est laissée surprendre, elle n'a pas pu répondre, mais après, elle regrettait parce qu'elle disait, si j'avais osé, si j'avais risqué, je suis sûr que j'aurais pu aller chercher la médaille d'or. Alors, il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup d'émotions. Là aussi, on l'a laissé reprendre son souffle. Mais encore une fois, en zone mixte, on a découvert une athlète très attachante. Et au début, ça a été difficile parce que il y a eu la première médaille suisse en tir, Audrey Gonia. Puis la deuxième médaille se faisait attendre. Et en l'occurrence, celle de Julie Deron, ça a été la deuxième médaille pour le camp suisse. Et ça a apporté vraiment beaucoup de sérénité à Suisse Olympique, au village olympique, à toute la délégation helvétique.
Votre image forte des JO, Grégoire Perroux, c'est le 100 mètres masculin. Alors c'est vrai que là, il faut parler même de photo finish pour l'image.
De photo finish, de millimètres, de millième de seconde, c'est très simple. Entre le médaillé d'or, l'américain Noah Lyles, et le médaillé d'argent, le jamaïcain Keshane Thompson, il y avait 5 millièmes. C'est tellement infime, tellement peu, 5 millièmes, et on se dit, c'est pas la quatrième ou la cinquième place qui se joue à 5 millièmes, c'est la différence entre la médaille d'or et la médaille d'argent, ce qui rend cette image de photo finish encore plus impressionnante, parce qu'à l'œil nu, on peine à complètement à distinguer qui c'est qui s'impose. Alors en direct, on n'ose même pas dire un choix entre les deux coureurs, tant ça semble serré. Et quand on voit cette photo finish, eh bien on voit quand même une certaine différence entre Noah Lyles et Keshane Thompson. C'est seulement quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, ces photo finish. Et durant les Jeux Paralympiques, j'ai eu la chance d'aller faire un reportage autour du système de chronométrage pour observer notamment les caméras qui prennent ces photos sur les lignes d'arrivée. Et la première chose qu'on m'a dit quand j'ai parlé de ce fameux 100 mètres des Jeux Olympiques de Paris, ce 100 mètres masculin, c'est « Ah mais nous, la différence, on l'a vu très rapidement. » C'était même une grande différence, alors qu'à l'œil nu, alors qu'en direct, on n'arrive même pas à distinguer qui de ces deux athlètes arrive en première position et décroche la médaille d'or. Et c'est parce que la technologie aujourd'hui, elle évolue tellement vite. Il y a des ressources pour vraiment départager des athlètes qui courent aussi rapidement. Et ça rajoutait un moment un peu assez mystique, on va dire, dans ce Stade de France. Parce que entre le moment où la photo finish commence à être créée et le moment où elle est annoncée dans le stade, il y a toujours quelques secondes, voire minutes. Et on regarde ces athlètes qui eux-mêmes ne savent pas s'ils sont champions olympiques, s'ils sont vice-champions olympiques. Et cette attente, elle rajoute quelque chose au moment. Et ensuite, il y a l'explosion de joie de Noah Lyles qui était venu à Paris pour tout rafler. Ça a été le premier jalon de son épopée parisienne. La suite ne s'est pas forcément passée comme prévu pour l'Américain. Mais ça a rajouté quelque chose à ce 100 mètres qui, il est vrai, en tout cas personnellement, depuis le départ de certaines stars du 100 mètres, à l'image par exemple d'Usain Bolt, a perdu un peu de saveur. Mais il était quand même très beau ce 100 mètres olympique avec les 8 athlètes en 12 centièmes. 12 centièmes, encore une fois, c'est rien du tout. Et ça montre que cette course, elle était serrée, pas seulement pour les deux premières positions, mais sur l'ensemble des 8 concurrents. Et tout le monde attendait le 100 mètres. Ils ont eu un 100 mètres et tout le monde a dû ensuite attendre pour savoir qui avait gagné le 100 mètres. Et finalement, c'était Noah Lyles.
Vous avez choisi la course la plus courte, Grégoire Perroux, et vous la plus longue, Bernardin Lehmann. Votre image forte de l'année, c'est la victoire de la néerlandaise Sifan Hassan sur le marathon. C'était le dernier jour des Jeux.
Oui, le marathon qui arrivait dans un de ces lieux mythiques de Paris, les Invalides. Sifan Hassan, la néerlandaise qu'on connaît depuis très longtemps, ça fait si longtemps qu'elle est sur le circuit. D'ailleurs, elle était même déjà, pour ceux qui s'en souviennent, à Zurich pour les championnats d'Europe en 2014. Elle avait d'ailleurs remporté la médaille d'or sur 1500 mètres. C'est dire sa longévité. Et puis là, elle visait 3 médailles. Sur le 5000, 10 000 et le marathon, la dernière personne qui l'avait fait, c'était un certain Émile Zatopek en 1952. Alors lui, il avait remporté les 3 médailles d'or. Alors elle n'a pas réussi. Elle a fait le bronze sur le 5000, le bronze sur le 10 000. Et puis arrive ce marathon, cette matinée à Paris où il faisait très chaud. Et là, c'est vrai qu'il y a eu cette course dans laquelle il y a eu beaucoup de suspense. Je crois qu'à 2 km du terme, il y avait encore 5 femmes qui couraient quasiment dans un mouchoir de poche. Difficile de dire laquelle des 5 allait s'imposer. Et puis ensuite, il y en a 2 qui sont détachés, c'est Béatrice Chebet et puis c'est donc Sifan Hassan. Et puis il y a eu ce sprint absolument exceptionnel où les deux femmes sont d'ailleurs touchées du coude, on a eu peur qu'elles tombent, ça aurait été dramatique après plus de 42 kilomètres. Et finalement, c'est Sifan Hassan qui s'est imposée. Alors, je ne sais pas si elle va continuer ou pas, mais le clone carrière absolument exceptionnel, c'était pas Béatrice Chebet, c'était Tixte Assefa, pardon, le sprint entre Assefa et Hassan. voilà, avec une course extrêmement rapide, c'est un record du marathon, peu importe finalement le temps sur un marathon est moins important peut-être que
2h22 55.
Ouais, bravo, vous avez préparé votre leçon.
Non, je me rappelle des images.
D'accord, ouais. Mais voilà, bah, ça montre la rapidité de cette course malgré la chaleur et puis malgré aussi un parcours qui n'était pas si simple que cela à Paris, même si à Paris ça monte pas énormément. Et voilà, c'était une course exceptionnelle et surtout une athlète absolument incroyable que cette Sifan Hassan, la néerlandaise.
Qui avait gagné l'or sur le 5000 et sur le 10000 à Tokyo.
Oui, absolument. Elle n'a pas réussi à garder ses titres à Paris, mais elle avait fait le 5 et 10. Non, elle est là dans les grands rendez-vous, Sifan Hassan. C'est terrible pour ses adversaires qui la voient toujours arriver comme un épouvantail. Mais voilà, et puis elle a du caractère, ce sprint est absolument incroyable, était incroyable et sur cette arrivée aux Invalides.
Ouais, ce qui est fou, c'est qu'elle fait le 5000 le 5 août, il y a le 10000 le 9, le marathon le 11. Franchement, il faut enchaîner en plus.
Ah, il faut enchaîner pour
c'est
récupérer.
En 6 jours.
Je sais pas
plus les qualifications, plus les demi-finales sur le 5000, ça fait 4 courses en 6 jours.
Ah oui, non, c'est pour ça que c'est il y a quelques athlètes qui auraient pu faire 3 médailles avec plus d'espace, avec aussi peu d'espace, c'est quasiment impossible. Je vous l'ai dit, c'est il y a que Zatopek qui a réussi à le faire en 52, 3 médailles, en l'occurrence 3 médailles d'or, mais là ce que fait Sifan Hassan avec ses 3 médailles, c'est absolument fou, même si dans son rêve, c'était de réaliser 3 fois l'or. Voilà, c'était un peu compliqué, mais là elle est cherchée comme Laura, sa troisième tentative sur le marathon.
On parle de votre image forte des JO, Grégoire Augier. Surprenante, cette image.
Pourquoi ?
Bah, parce que vous allez nous parler d'une chanteuse.
Oui, pourquoi pas. Je me suis dit voilà que dans toute cette soirée, on allait beaucoup parler de sportifs, d'exploits sportifs. Et moi, c'est vraiment un moment qui m'est resté. C'est Céline Dion lorsqu'elle chante à la cérémonie d'ouverture. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations autour de cette cérémonie d'ouverture. D'abord par rapport à la sécurité, puis ensuite ce jour-là par rapport à la météo, il pleuvait, etc., etc. J'ai pas regardé tout de suite cette cérémonie d'ouverture. Je faisais un petit peu autre chose ce soir-là, je m'y suis intéressé un petit peu en deuxième partie. Et puis c'est vrai que je trouve que c'est un moment assez exceptionnel lorsque Céline Dion chante l'hymne à l'amour d'Edith Piaf depuis la Tour Eiffel, clôturant cette cérémonie qui sur la fin il y avait tout ce suspense autour de qui seront les porteurs de la flamme et qui allaient allumer en bout de course cette vasque olympique. Et puis il y a ce moment, un moment d'histoire pour moi parce que ça va tellement au-delà du sport. Céline Dion qui n'avait plus chanté depuis 4 ans. Et je me rappelle de cette image lorsque elle est en train de terminer. Il y a un petit moment de silence avant qu'elle chante les quelques dernières notes, les quelques derniers mots. Vraiment, on voit aussi des sportives qui remportent une médaille. C'est l'aboutissement pour certains d'une carrière. Alors là, Céline Dion, elle a une carrière qui est extrêmement longue et exceptionnelle. Mais vraiment, ce moment-là, on sent aussi toute la tension qu'il pouvait y avoir pour Céline Dion ce soir-là. Elle n'avait plus pu chanter pendant plusieurs années, elle le fait là, à ce moment-là, en mode vision. Et finalement, pour moi, c'est ce moment-là qui lance finalement de la plus belle des manières ces Jeux Olympiques.
Ouais, c'est vrai, Bernard Dalleman, c'est là qu'on a compris que les Français avaient déjà réussi leur cérémonie d'ouverture et que finalement, les Jeux s'annonçaient peut-être pas si mal que ce que l'on pouvait redouter.
Ah oui, parce que en plus il y a eu toute la story, avant l'avant-veille, Céline Dion, est-ce qu'elle est prévue, est-elle là? Je crois que la veille on l'a vue dans un hôtel, elle est venue parler. Donc il y a eu toute cette story autour de Céline Dion, c'était très très bien utilisé par les organisateurs de cette fête d'ouverture. Je n'ai pas la chance d'assister à cette cérémonie d'ouverture, mais effectivement Céline Dion, c'est quand elle chante, c'est déjà une performance physique. Je sais pas, Roger, je crois que vous chantez très bien Céline Dion, non?
Allez. Très mal. Je n'oserais pas. Quand même.
Voilà, et puis bon, il y a la chanson en plus, c'est une reprise d'Edith Piaf, il n'y a pas plus parisienne dans l'histoire de Paris qu'Edith Piaf. Donc voilà, c'était effectivement un beau moment.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins,
Tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma part, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. Oh, on peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi, nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problème, mon amour, crois-tu qu'on sait.
Une certaine émotion quand même. Quel sacré coup réussi par les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris que de pouvoir faire chanter Céline Dion sur la Tour Eiffel. Et il nous reste une catégorie à découvrir, Stéphane Trisconi, dans la première partie de cette rétro de l'année, une partie consacrée aux Jeux Olympiques.
Après les sportives et sportifs, après les événements, après les images fortes, voici la plus belle médaille des Jeux. Vous avez choisi celle d'Audrey Gonia, Grégoire Perroux. C'était la première médaille suisse des Jeux et j'imagine que vous l'avez choisie pour cela, mais pas seulement.
Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, vous l'avez dit, la première médaille suisse est toujours d'une certaine manière marquante parce que tout le monde l'attend, que ça soit le public, les fans, les athlètes, les journalistes. Il y a une certaine pression qui est mise autour de cette première médaille de la délégation helvétique durant des Jeux Olympiques. Et encore une fois, eh bien, c'est le tir. C'est la deuxième raison. C'est le tir, ce sport avec une longue tradition en Suisse, qui ouvre les compteurs pour la délégation helvétique. Ça met une certaine importance sur ces disciplines sportives du tir. Et en 2021, c'était Nina Christ. En 2024, c'est Audrey Gonia, la jurassienne. Et justement, Audrey Gonia, en plus, une sportive romande, jurassienne du Noirmont de seulement 21 ans, qui va décrocher cette première médaille de bronze lors du 10 mètres tir à la carabine. Eh bien, ça rend cette médaille encore plus belle. Surtout quand on regarde cette épreuve de tir, parfois on découvre comment se déroule une épreuve de tir et en fait ça se passe par élimination, donc c'est-à-dire il y a des séries de tirs et à chaque ronde la tireuse ou le tireur le moins bon est éliminé, et le moment où elles sont plus que quatre, que Audrey Gonia réalise une très belle performance, que la quatrième est éliminée, Audrey Gonia là à ce moment-là elle sait qu'elle vient de décrocher une médaille olympique et on la voit rester de marbre. Il n'y a aucune émotion qui sorte alors que la plupart des gens devaient être en train de s'agiter devant leur télévision. La première médaille pour la délégation suisse. Elle est restée concentrée jusqu'au bout pour peut-être aller chercher une médaille d'argent, voire d'or. Alors finalement, c'est resté sur le bronze et une fois que ça s'était fait, eh bien, on a commencé à avoir des émotions, à commencer à avoir de la joie. Et Audrey Gonia était une très belle première médaille pour la Suisse. On la sentait timide parce que faut pas oublier que quand on est la première médaille suisse, derrière il y a un marathon médiatique. Faut répondre à beaucoup de demandes, faire beaucoup d'interviews et ça rend tout ça un peu plus particulier et ça met une certaine pression sur ces premières médailles helvétiques presque à chaque Jeux Olympiques. Mais donc voilà, ça reste un moment qu'elle va jamais oublier dans sa vie et qui plus est, le fait que ça soit cette première médaille pour la délégation helvétique, ça rend vraiment la chose particulière.
Je vois lever la main, Alain Thévaux.
Non, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de suivre pour la radio la compétition. Alors certes, c'était à notre centre des médias parce que les épreuves de tir, peut-être malheureusement, avaient lieu à Châteauroux. Donc c'est pas vraiment à Paris. Enfin, c'est pas très loin non plus. Mais voilà, il y a pas forcément la possibilité pour les gens de faire la fête le soir même. Elle est venue le lendemain seulement à la Maison Suisse. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est le nouveau format de la compétition avec cette élimination. C'est vrai qu'il y a du suspense, il y a de l'intensité, il y a de la dramaturgie. Avant, il y avait toutes les concurrentes alignées, puis on retenait, je crois, les 8 ou 12 meilleurs, peut-être les 8 meilleurs pour la finale. Et c'était beaucoup moins intéressant. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un côté de dramaturgie, c'était vraiment passionnant à suivre le tir. Je pense que c'est plus vendeur pour le tir sportif, peut-être pour le faire découvrir. Alors lors des one shot, c'est le cas de le dire, mais voilà, lors de Jeux Olympiques, comme on parle par exemple le curling, c'est surtout aussi aux JO qu'on découvre, que les gens ont la possibilité de découvrir et d'assister à ces épreuves.
Oui, par contre, il y a des sports que l'on voit pratiquement tout le temps. C'est le cas du basket, de la NBA, des joueurs stars comme Stephen Curry. Vous en avez parlé tout à l'heure dans l'événement qui vous a marqué, la finale de basket et plus particulièrement cet homme, Stephen Curry. C'est votre plus belle médaille olympique.
Oui, parce que 36 ans, il a tout gagné, 4 fois la NBA, il a aussi été à plusieurs reprises MVP, je crois que c'est plus ou moins le 5e peut-être meilleur marqueur, mais plus de 22 000 points. Il est réputé avec son tir à 3 points chirurgical, peut-être une expression chère, un de mes commentateurs basket préférés, et il a climatisé la salle, Paris-Bercy en l'occurrence, avec son tir à 3 points. Il a révolutionné aussi le poste de meneur, il lui manquait une ligne sur son palmarès, un titre, la médaille d'or olympique, et j'ai envie de dire chapeau parce que l'équipe a été construite pour lui, autour de lui, et lui vraiment il voulait cette consécration. Au début il y avait beaucoup de nervosité, ses tirs n'entraient pas, son entraîneur lui a maintenu sa confiance et lorsqu'il a fallu prendre justement, forcer la décision, prendre ses responsabilités, il était là et ses tirs primés ont fait la différence et c'est vraiment lui avec ses coéquipiers, mais en tout cas, lui a pris une grande part dans cette consécration.
Oui, il y a un shoot qui m'a marqué, je pense que vous en souvenez, quand il a deux Français face à lui, qu'il est en déséquilibre, en arrière, qu'il tente le shoot, on se dit non mais là c'est quand même pas possible. Et ça rentre et vous vous dites mais il est incroyable.
Exactement, c'est phénoménal, c'est beau à voir, c'est un virtuose, c'est vraiment un virtuose de la sphère orange.
Et il le fait 4 fois à la suite en
finale. Dans les toutes dernières minutes, exactement. C'est de la folie, quoi. Vraiment, je veux dire, en début de match, le cours des événements peut changer, mais à la fin, vous devez prendre vos responsabilités. Et puis, et effectivement, il est déséquilibré, il va tomber, c'est pas possible. Ou ça va toucher le cercle, ça ne va pas entrer. Et vraiment, la balle qui entre et... Ouais, c'était super à voir et en tout cas chapeau pour lui. Ça fait penser aussi, alors c'est peut-être d'autres sports, mais par exemple quand Colorado Avalanche remporte la Coupe Stanley en 2001, David Ebischer était le gardien remplaçant et juste avant une légende de NHL, Raymond Bourque avait été échangé de Boston au Colorado Avalanche et tout avait été orchestré pour que Bourque, si Colorado gagne, je veux dire c'est lui, le droit est revenu, le capitaine Joe Sakic prend la Coupe Stanley, ne la soulève pas. Il va chez son coéquipier, il donne la Coupe Stanley et c'est Raymond Bourg qui la soulève. Et j'ai suivi en fait toute la finale et tous les deux jours, je voyageais entre New Jersey et Denver. Et bon, je suivais surtout l'équipe de Colorado. J'étais dans le vestiaire des Colorado Avalanche. Et Raymond Bourg avait des poches de glace, était blessé, il boitait. Enfin, vous dites, mais comment est-ce qu'il va jouer le gars? Et toute proportion gardée, mais c'est vrai que la consécration, je dirais l'apothéose Stephen Curry, m'a fait penser à la Coupe Stanley, à la conquête des Colorado Avalanche en 2001.
Grégoire Ogier, vous, c'est la médaille de bronze du français Florent Manodou qui est la plus belle des Jeux. Pourquoi ce choix ?
Parce que là aussi, c'est une histoire fantastique, une histoire de longévité. C'est sa quatrième médaille consécutive lors des Jeux Olympiques sur cette discipline. Le 50 mètres, c'est quoi ? C'est le 100 mètres finalement de l'athlétisme. Hein. Ce sont des nageurs, des monstres carrés qui font quasiment tous 2 mètres, qui s'élancent la telle des fauves. Et puis voilà, la natation française avait déjà largement réussi ces Jeux Olympiques. Il y avait l'explosion de Léon Marchand, dont Bernardin a souvent vanté les mérites, même avant qu'il devienne 5 fois champion olympique. Et Florent Manodou, voilà, il était dans la natation française avant que le phénomène Léon Marchand arrive. Et Florent Manodou, ben, je l'ai pris pour l'exemple aussi de la longévité, de la persévérance. Il était de loin pas favori dans cette course. Il s'est qualifié à la limite en demi-finale. Lorsqu'on lui a posé la question après sa demi-finale, ouais, vous passez vraiment 8e temps un petit peu à la raclette. Il a dit, je serai là, je serai présent au moment de la finale. Il s'est même permis un truc assez fou. Il entre dans la salle qui accueille cette finale. Il s'est permis un clapping avant même que la finale ne commence. Et ensuite, eh bien, il va claquer le 3e temps de cette finale. Il décroche la médaille de bronze. C'est sa 4e médaille olympique. 2 fois l'or, 1 fois l'argent, 1 fois le bronze. Voilà, c'est un champion fantastique. J'avais envie de lui rendre hommage, voilà, parce que faire une médaille sur 4 Jeux olympiques consécutifs, c'est une sacrée performance.
Et là aussi, ça s'est passé dans un cadre où il y avait une ambiance absolument folle aux abords de la piscine. Franchement, ça aussi, ça va rester gravé dans les mémoires.
Oui, comme on l'a déjà dit, c'est vrai que les sites choisis par les organisateurs de ces Jeux olympiques de Paris 2024 ont été fantastiques. On a évoqué le beach volley, on a évoqué le champ de Mars, on a évoqué voilà, tous ces endroits. C'est vraiment quelque chose qui va rester. La capacité qu'ont eu les organisateurs de mettre ces compétitions dans des lieux mythiques de Paris, c'est vrai que c'est ce qui fait une des forces de ces Jeux Olympiques de Paris et certainement ce qu'il en restera aussi d'ici 10, 20 ou 30 ans quand on repensera aux Jeux Olympiques de Paris.
C'était à la Défense Arena, puisqu'on parle du lieu, c'était à la Défense.
Oui, exactement.
Défense Arena, c'est la piscine olympique.
Bon, je sens, Bernard Alemann, que vous avez hâte de nous faire découvrir votre plus belle médaille des Jeux de Paris. Eh bien, il faut la patienter. With Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman, I'm too hot, make a dragon wanna retire, man, I'm too hot, say my name, you know who I am, I'm too hot, and my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah, girls hit you, hallelujah, girls hit you, hallelujah, cause Uptown Funk don't give it to you, cause Uptown Funk don't give it to you. Just watch. Hallelujah. Girl, set you hallelujah. Girl,
set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've succeeded and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch.
Uptown Funk, Mark Ronson et Bruno Mars. Bruno Mars que certains verraient bien se produire lors des Jeux de 2028 à Los Angeles. Il est né à Hawaï, mais c'est bien à Los Angeles qu'il a débuté sa carrière. On verra bien s'il sera choisi pour faire danser les foules dans un peu plus de 3 ans et demi en 2028. En attendant, la suite de la rétro des JO de Paris avec vous Stéphane Trisconi.
Avec Bernardin Lehmann qui va enfin pouvoir nous révéler quelle est, à ses yeux, la plus belle médaille des Jeux Olympiques de Paris. Vous avez choisi une médaille française, Bernardin. La médaille d'or de la spécialiste de VTT, Pauline Ferrand-Prévot, décrochée sur la colline d'Elancourt.
Colline d'Elancourt, qui est quand même le point le plus haut de toute l'île de France. Donc la région parisienne. Oui, parce que Pauline Ferrand-Prévot, c'est un caractère, on l'aime, on l'aime pas. C'est vrai qu'elle elle nous avait aussi pas mal énervé, nous autres Suisses, quand elle avait accusé Yolanda Neff.
Oui, bon, il y avait eu triplé Suisse, donc...
Exactement, mais voilà, elle avait accusé Yolanda Neff à tort. Bref, les images avaient bien montré, mais il faut avouer qu'elle a du caractère, parce que ça fait longtemps qu'elle est là, elle a été blessée, elle a été bien malade. En 2016, elle doit abandonner. En 2021, elle chute. Elle est victime ensuite d'une crevaison. Elle termine dixième. Il y a le triplé suisse. Les Suisses sont menées par Yolanda Neff. Mais elle a quand même fait preuve de caractère parce que c'était là que tout le monde l'attendait. C'est en France. Elle est française. C'était la grande favorite. Il faut encore aller le chercher. On sait que c'est quand même le VTT, le cross-country, c'est quand même un sport où on n'est pas à l'abri d'une blessure, d'une crevaison, d'une chute, de quoi que ce soit, ou d'un jour impuissant. Et là, elle a vraiment assuré, elle est partie devant et personne ne l'a revue. Donc, j'ai trouvé que c'était une victoire qui était empreinte d'un certain panache. Voilà, que cette victoire de Pauline Ferrand-Prévot.
Et la délégation française l'a honorée, puis c'est elle qui était porte-drapeau à la cérémonie de clôture.
Oui, mais ça, c'est totalement mérité.
Bon, il y avait le choix, pour les Français. Il y a beaucoup qui pouvaient porter le drapeau, quand même.
Ça, c'est une certitude. Il y en a beaucoup. La France, comme chaque nation qui accueille les Jeux, a bien réussi sa morceau de médaille. Pour elle, ça restera un beau souvenir. Pauline Ferrand-Prévot. Bravo à elle.
Côté suisse, c'est Julie Deron et Roman Mitioukov qui avaient eu l'honneur de porter le drapeau lors de la cérémonie de clôture. La médaille de bronze de Roman Mitioukov sur le 200 mètres d'eau, c'est justement celle que vous estimez être la plus belle des Jeux, Caroline Raymond.
Mais oui, parce que déjà en Suisse, on est un petit pays, donc il n'y a pas beaucoup de médailles, il y a peu de médailles suisses romandes, même si là, à Paris, c'était peut-être un peu exceptionnel. Et puis, on médaille en natation, alors c'est encore plus rare. Et puis, Roman Mitioukov, je pense que c'est quelqu'un qui le méritait. C'est vraiment la récompense d'un travail acharné, beaucoup de talent aussi, mais beaucoup de sérieux, une gestion de carrière qui est absolument remarquable, mais qui se fait aussi, alors vraiment, dans l'ombre, par rapport à d'autres sportifs en Suisse. Et puis, ça commence avec des médailles européennes, et puis du bronze aux mondiaux, de l'argent encore une fois aux mondiaux, et puis il arrive à Paris, il fait le 100 mètres d'eau et ça se passe pas comme il a envie, il perd confiance, il a fallu effectivement se remobiliser sur le 200 mètres d'eau, il est cinquième au moment de toucher, juste avant de faire le dernier bassin, on se dit c'est pas possible, c'est encore une quatrième place qui va arriver, ou cinquième, et puis non, il a fait une remontée absolument fulgurante pour aller chercher ce bronze. 2011 et cette émotion, le sourire de Roman Mitioukov qui tout d'un coup a plein de micros devant lui, de caméras et qui s'en est hyper bien sorti. Moi j'ai trouvé qu'on a découvert vraiment quelqu'un de magnifique et c'était tellement mérité justement d'avoir cette lumière aussi sur lui après tout ce travail, après une année 2022 aux Européens il avait fini quatrième trois fois et ça lui avait mais brisé le moral et je crois qu'il y a pensé hein, à ces quatrième places où il s'est dit non plus jamais je vais vivre ça et ça l'a motivé pour aller chercher la médaille de bronze. Et puis moi, je me dis, il a dit il n'y a pas longtemps dans une interview que bah, finalement, ça n'a pas changé grand-chose dans sa vie. Hein. Il continue ses études, il continue à nager, il n'y a pas forcément beaucoup plus de sponsors. Ça a été la même chose vécue par Noé Ponti après Tokyo. Ça a un peu changé peut-être un peu maintenant pour le Tessinois. Donc c'est un appel à des partenaires. Quoi. Vraiment, les nageurs sont des personnes qui méritent autant que d'autres sportifs de faire vivre au fait ces médailles et puis d'être vraiment connus, de pouvoir vivre de leur sport. Parce que là, on est vraiment dans les smicards du sport. Et par rapport aux heures qu'ils passent à nager, mais aussi après à s'entraîner à côté, moi je trouvais une injustice par rapport à leur manque de médiatisation et de soutien aussi.
Ah, j'aime bien la notion de smicard du sport. C'est un peu aussi une smicard que vous avez choisi, Jérôme Jeannin. Également une médaille de bronze, celle de Zoé Klessens, qui n'est pas souvent dans la lumière.
Effectivement, pour moi, c'est la plus belle médaille parce que c'est déjà la première du BMX racing en Suisse. C'est un sport qui est quand même relativement nouveau. Hein. C'est pas depuis longtemps au programme olympique. C'était une médaille qu'on attendait, vu le pédigré et le palmarès de Zoé Klessens. Mais c'était difficile. Hein. Les séries, tout ça, elle était régulièrement... vous saviez, il y avait trois séries pour aller en finale. Et elle était un peu... elle s'est qualifiée, mais sans brio. Elle avait quand même des adversaires devant elle qui étaient beaucoup plus impressionnantes. Et puis, elle a assuré en finale. Elle a pris un bon départ. On a cru peut-être qu'elle pouvait jouer la gagne. Finalement, c'était pas le cas. Mais elle remporte une super médaille qui récompense aussi. Et c'est aussi pour ça que cette médaille est belle. Le travail de toute sa famille. C'est son papa qui a créé la piste et le club à Échichon. Elle a des frères et sœurs qui font du BMX. La maman qui est aussi omniprésente. C'est vraiment un travail familial de plusieurs années qui couronne l'essor de ce sport en Suisse romande, en Suisse, et puis qui récompense finalement tout le BMX suisse qui n'avait pas encore été récompensé sur le plan olympique.
Et puis il y avait eu la frustration aussi de 4 ans auparavant avec une chute donc à Tokyo, et ça c'était aussi une petite revanche à prendre sur le sort hein, pour Zoé.
Moi ce qui me frappe avec elle, c'est qu'elle est toute timide, toute réservée, elle déteste les médias, et là, en quelques minutes, c'est un peu comme disait Caroline, les micros, les caméras vous arrivent devant et il faut assurer, il faut assumer.
Ouais, mais ça va mieux avec Zoé Klessens, je trouve.
Mais sur la piste, c'est une bête de course, c'est une tueuse. Hein, parce que c'est vrai que, comme Patrick le disait, c'est un sport où il y a aussi une part d'impondérable, d'aléatoire. La chute peut vite arriver. Il faut vraiment s'imposer et jouer des coudes, un peu comme le ski cross. Quoi. Ce sont des épreuves où il y a de la vitesse, du contact, et il ne faut vraiment pas avoir froid aux yeux.
Et l'importance du départ. C'est le départ. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un départ de BMX.
Non, c'est trop raide.
C'est pas que les sont trop raides. C'est absolument, j'ai eu la chance justement à Échichon de faire une petite initiation. Le départ, c'est quelque chose de fou. Hein. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de ce millième de seconde au moment où on donne le coup pour partir. Quoi. Et ça, c'est fou.
On va conclure cette rubrique olympique avec votre plus belle médaille, Patrick Delletreau. C'est une médaille, comment dire ? Symbolique, il y a un gros symbole.
Oui, c'est totalement le symbole. C'est Cindy, je vous donne son nom complet, Cindy Winner. Bon, elle n'a pas gagné, mais quand même. Cindy Winner Jonke Ngamba. C'est la première médaille pour l'équipe olympique des réfugiés. Alors, l'équipe olympique des réfugiés, elle a été créée pour les Jeux de 2016. C'est Thomas Barr, en 2015, a été devant l'Assemblée de l'ONU pour déclarer que le CIO allait mettre sur pied une équipe de réfugiés. À Rio, il y avait 10 athlètes d'Éthiopie, du Soudan du Sud, de Syrie, de République démocratique du Congo. Et puis on attendait cette première médaille parce que c'est vrai qu'ils vivent tous des situations difficiles. Il y a le symbole Cindy Ngamba aussi qui a une histoire assez folle. Elle est arrivée du Cameroun tout d'abord en France avec sa mère et son frère. Sa mère qui n'avait pas les moyens de les entretenir suffisamment, elle les envoie chez leur père qui est en Angleterre. Là, ça se passe pas très bien pour Cindy. Elle mange trop, elle prend du poids, elle est boulimique. dynamique. Son frère l'incite à faire un peu de sport, à marcher, puis l'inscrit dans un club multisport. Elle se met à la boxe et puis ça démarre. Elle obtient son statut de réfugiée en 2020 parce qu'elle s'est déclarée lesbienne et qu'au Cameroun, dont elle est originaire, eh bien elle ne pourrait pas vivre en se déclarant officiellement lesbienne, et donc elle a statut de réfugiée et elle vient à Paris. Elle remporte une médaille. C'est tout le symbole qu'il y a derrière cette équipe, et c'est, je dirais, c'est encore malheureux qu'il doit y avoir une équipe de réfugiés, mais au moins il y en a une.
Ça, c'est des histoires que vous aimez, Jérôme Jordan, je vous connais bien.
Absolument, c'est une histoire de vie totalement passionnante, et chapeau à elle, et puis chapeau à tous les autres qui n'ont pas eu de médaille.
Surtout Dominique Lobalouf. Oui. Voilà, c'est mon grand regret, effectivement, qui gagne des médailles pour la Suisse au championnat d'Europe, qui peut pas courir pour la Suisse parce qu'il y a d'autres règles avec les Jeux Olympiques, mais qui est réintégré dans cette équipe de réfugiés dont il a fait partie aussi pendant longtemps. Et malheureusement, il n'y a pas eu de médaille. Ça aurait été génial si lui avait pu en remporter une, mais enfin voilà.
Et il en remportera une pour la Suisse.
Pour la Suisse la prochaine fois, oui.
Ouais, la prochaine fois, ce sera Los Angeles en 2028. Et c'est avec cette note d'espoir pour Dominique Lobalouf, dans 4 ans, que se conclut notre rétro spécial Jeux Olympiques de Paris.
Et dans l'heure prochaine, nous reviendrons sur les moments forts de l'Euro 2024 de football avec Joël Robert et Bernard Dalleman. Et puis on vous retrouvera, Stéphane Trisconi, pour évoquer tous les autres événements sportifs qui ont marqué l'année 2024. Espresso, Sabrina Carpenter. Suite de la rétro 2024 de la rubrique Sport Radio de la RTS avec l'Euro 2024 de football. Ce sera tout de suite après les informations. Merci à Mathias Bonimann qui est en régie tout au long de cette soirée. Là sur RTS Première, il est 21h.